CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour à toutes et à tous, le rendez-vous politique avec Kader Youb. Bonjour Kader.
Bonjour Ami.
Bonjour à tous.
Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Michel Henriot, maire de Moissac. Bonjour Monsieur Henriot.
Bonjour Monsieur.
Bonjour Monsieur Henriot.
Bonjour.
Avec vous, pour Moissac, la droite et le centre rassemblés autour de Jean-Michel Henriot, c'était le nom de votre liste. C'est la première fois que vous êtes aux commandes d'une ville, depuis donc, c'est votre premier mandat. On est à quoi maintenant? Six mois?
Six mois, oui.
Hein, six mois. Donc l'idée de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est justement de pouvoir ensemble regarder un tout petit peu dans le rétroviseur. Mais avant ça, j'aimerais votre réaction sur ce fait d'actualité qui touche beaucoup de gens ici, que ce soit dans le Tarn, mais aussi dans le Tarn-et-Garonne, c'est bien sûr la mort de Rémi Freys, ce jeune qui était contre le barrage de Sivens et qui est décédé là ces jours-ci.
La réaction, d'abord, elle est navrée parce que c'est quand il y a mort d'homme, il y a toujours c'est toujours un drame, hein, quelles que soient les circonstances. Donc on ne peut que qu'effectivement trouver regrettable qu'on en soit arrivé là. Hein. Autant le fait de manifester en France est un droit pour tout citoyen, autant le fait de s'apercevoir que ça peut finir de façon dramatique, c'est effectivement un constat amer, je dirais.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce barrage de Sivens? Quelle est votre opinion?
Alors, écoutez, moi je vais vous dire, je n'ai pas d'opinion précise sur le barrage de Sivens parce que je l'ai découvert en même temps que les événements.
Parce qu'il y a beaucoup d'arboriculteurs à Moissac qui pourraient avoir besoin de...
Alors, je vais vous dire, depuis, je me suis un peu renseigné, j'ai essayé de savoir, on en parlait encore tout à l'heure avec des responsables de sociétés qui travaillent avec le monde agricole. Apparemment, c'est un projet qui date de plusieurs années, qui aurait suivi tout un processus d'autorisation diverses et multiples, comme c'est le cas souvent. Alors, quant à savoir si les opposants actuels représentent une frange importante de la population concernée ou non, j'avoue que personnellement, je n'ai pas les informations suffisantes pour pouvoir le dire. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on en soit arrivé à une manifestation qui dégénère dans la violence, hein, sur le site, je parle, et qui a engendré malheureusement ce qui s'est passé vis-à-vis de ce jeune homme décédé. Donc ça, c'est les dérives que l'on rencontre souvent dans certaines manifestations, sur lesquelles on peut se poser, je crois légitimement, la question de savoir si c'est comme ça qu'il faut manifester. Parce que bon, certes, faire un barrage, ça peut perturber certains esprits, mais il y a quand même pas de raison que ça finisse par mort d'homme. Ça, c'est la première chose. Et puis après, par contre, là, ce que je regrette vraiment, c'est les débordements sur les villes voisines, Gaillac, Albi. Je veux dire, rien ne justifie qu'on dégrade un monument aux morts, qu'on démolisse des vitrines, qu'on saccage une ville, même si on peut comprendre la colère des gens qui ont vu leur ami mourir dans une manifestation. C'est deux choses qui me paraissent différentes. Il y a des gens qui manifestent devant la mort dans des manifestations silencieuses, dans des manifestations dignes, où on honore la mémoire de celui qui est parti, et pas forcément comme ça s'est passé. Ça, franchement, je le regrette.
La décision du président du Conseil général du Tarn de suspendre tout travaux, toute opération sur le site, est-ce que c'est une décision sage que vous...
Moi, je peux comprendre que devant la situation telle qu'elle se présente, devant, l'émotion que cela a suscité dans tous les pays, largement au-delà de la région, on peut comprendre que le premier réflexe soit de dire bon, ben, on suspend. Alors après, la question, est-ce que c'est une décision définitive? Est-ce que c'est une décision qui va amener d'autres réflexions pour savoir ce que va devenir ce projet? L'avenir nous le dira.
Pas ça, moi ça que Monsieur Henriot, avec le recul, on le disait en introduction, 7 mois d'exercice, avec le recul sur cet exercice justement. Je veux avoir votre opinion, votre sentiment sur ces 7 mois et sur la campagne finalement qui a permis à ce que vous l'emportiez. Vous étiez présenté comme le candidat contre le système, le candidat hors politique, le candidat de la société civile. Est-ce que les 7 mois passés vous ont permis finalement d'avancer vos pions et de faire contre les partis?
Alors, je ne sais pas si nous avons des pions à avancer. Je crois que l'idée que nous avions pendant la campagne, que vous résumez assez bien, je pense qu'elle a fait son chemin puisqu'elle nous a permis de d'être là où nous sommes aujourd'hui. Alors, si vous me disiez que certaines...
C'était pas gagné d'avance, une cadre régulière, c'est...
Oui,
ce qui est...
mais que certaines de nos adversaires, par leur comportement réciproque, nous ont un peu aidés, je veux dire, à leur corps défendant, certainement, mais nous en avons profité, je dirais, mais je crois que les chiffres, on va revenir rapidement, mais très vite, ont quand même permis de montrer que, en se maintenant dans une attitude... d'explications sans polémique inutile, nous a quand même permis, dans une quadrangulaire qui s'est répétée pour les deux tours, de gagner 10 points entre les deux tours. Donc, je veux dire que quelque part, ça nous a conforté dans l'idée que le choix que nous avions fait était le bon.
Voilà. Vos adversaires, à l'époque, brandissaient le spectre de votre inexpérience. Alors, maintenant que vous avez 7 mois d'expérience...
Alors, là, je... On n'est pas là pour être méchant avec quiconque. De l'inexpérience, on a certes, comme tous les gens qui rentrent dans quelque chose de nouveau,
qui débutent.
Je vous avais dit que nous étions tous prêts à nous mettre au travail et que nous avions les capacités. Et ça, je peux vous dire que depuis 7 mois, tout le monde s'y est mis avec plus que de la bonne volonté, avec de la ténacité. Alors, en ce qui concerne l'inexpérience, sans vouloir être excessif, je veux dire que une des premières choses quand on arrive, c'est de s'imprégner de la fonction et de regarder comment les choses se passent, de quoi on hérite et comment les choses se sont passées. Il y a certaines choses que nous avons trouvées qui ont été pour nous pour le moins surprenantes.
C'est-à-dire quelques exemples?
Oh, je peux pas. Les exemples précis, c'est...
Est-ce que financièrement, par exemple, l'état de la commune...
Alors, financièrement, je vais être très clair. Ce que nous avons demandé en arrivant, c'est un avis de la Cour régionale des comptes sur les comptes de la commune.
Bon, un audit.
Voilà. Donc, en fait, on nous a confirmé ce que nous pensions. C'est que nous avions un taux d'endettement qui était quand même relativement important pour une commune comme la nôtre, et comparé à certaines... notamment notre plus proche voisine, qu'elle on peut quand même facilement se comparer, qui est Castelsarrasin, et puis que nous avons, et ça nous le savions aussi, pas de marge de manœuvre en termes de fiscalité, ce qui nous a d'ailleurs amené, lorsque nous avons établi le budget définitif, à ne pas faire évoluer les taux d'imposition communaux. Donc ça, c'était... Donc ça veut dire que le prochain budget devra être un budget très prudent, malgré les projets que nous pouvons avoir, parce que, bien entendu, je n'apprendrai à personne, les dotations d'État, étant donné les plans de redressement et d'économie, vont aller à la baisse, et qu'on est d'ores et déjà obligé d'en tenir compte pour prévoir la suite.
Vous étiez à l'Assemblée des maires de Tarn-et-Garonne?
Alors, j'ai pas pu y aller.
Est-ce qu'on vous a fait le rapport? Parce que il y a une ancienne.
Non, bien sûr.
En tout cas, une musique, mais en tout cas des chiffres qui font état finalement d'une avec les dotations, la péréquation, finalement, le Tarn-et-Garonne serait sauvegardé en tout cas.
Alors, c'est ma première adjointe qui est allée à la réunion, qui nous a ramené les documents de base. Sauvegarder, Tarn-et-Garonne, c'est-à-dire, peut-être si on compare à d'autres départements, mais dans l'absolu, c'est quand même pas, on peut quand même pas dire qu'on va conserver tout ce que on a pu espérer avoir les années précédentes, faut être clair.
On reproche souvent aux maires, aux décideurs, lorsqu'ils arrivent, qui s'imprègnent, comme vous l'avez dit, qui remettent une équipe en place, de faire la chasse aux sorcières. Est-ce que ça a été le cas
à Moissac,
ou est-ce que vous avez laissé les équipes telles qu'elles étaient?
Non. Il n'a jamais été question de faire une chasse aux sorcières. Sur le plan des équipes, nous l'avions dit pendant la campagne et nous l'avons fait. C'est en cours de finalisation. Nous avons demandé un audit sur le fonctionnement, sur un audit social et de fonctionnement des services municipaux, qui a montré un certain nombre de choses. Nous allons avoir les derniers résultats prochainement, donc je ne peux pas tirer des conclusions dans l'immédiat. Mais si il y a des améliorations à faire sur l'organisation, le bon fonctionnement, la valorisation de nos personnels municipaux, nous les ferons sur la base d'un document précis qui nous permettra de cibler les problèmes éventuels et d'aborder les solutions qui nous seront proposées.
Un des enjeux de la campagne, c'était la sécurité. On va en parler après la pub.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, le MAG, tous les jours, 17h-17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Vous êtes découragé dans votre recherche d'emploi? Vous pensez avoir tout essayé sans résultat? Alors écoutez bien, grâce à une méthode dynamique et moderne, des conseils efficaces et un accompagnement personnalisé, Avantagez-vous sera vous redonner confiance. Marcel est à votre écoute et construira avec vous votre projet professionnel, identifiera vos besoins et les points à travailler. Une chose est sûre, vous retrouverez un emploi. Avantagez-vous s'y engage. Avantagez-vous, confiance trouvée, emploi retrouvé. Renseignez-vous vite sur avantagez-vous.fr.
Moi, malgré un budget serré, j'ai la solution pour varier mes plaisirs. Le guide Pastime. Exceptionnel dans le département, le guide Pastime dépasse tout ce que j'ai imaginé. Je sors plus, je dépense moins. Je profite de réductions jusqu'à moins 50% dans une large sélection de restaurants, de loisirs et de commerces. Avec le guide Pastime, je redécouvre le plaisir de sortir.
Avec Pastime, sortez plus, dépensez moins.
Voir conditions sur www.pastime.eu. Avec le guide Pastime, sortez plus, moins cher.
Pour le mois de décembre, CFM Radio vous fait gagner un poêle à bois Richard Ledroff d'une valeur de 1 500 €, offert par notre partenaire Les Maîtres du Feu, avenue d'Espagne à Alba-Sud-Montauban. Inscrivez-vous sur cfmradio.fr, répondez au quiz et vous serez peut-être tiré au sort parmi les bonnes réponses pour gagner le poêle à bois Richard Ledroff d'une valeur de 1 500 €, offert par Les Maîtres du Feu. CFM Radio et Les Maîtres du Feu réchauffent votre hiver et vous font faire des économies. Les Maîtres du Feu, offrez-vous l'excellence.
Rendez-vous Rugby Pro D2 à Sapiac, samedi 1er à 18h30. L'US Montauban reçoit le Racing Club Narbonne Méditerranée. La mêlée verte et noire aura fort à faire face aux ambitieux Narbonnais. USM face à Narbonne, c'est samedi 1er à 18h30 à Sapiac.
Gagnez vos places sur CFM Radio en appelant le 05 63 930 020 le soir dans l'émission À qui le tour.
CFM à Moissac, 90.7, 90.7.
Le rendez-vous politique aujourd'hui avec Kader Youb, notre invité Jean-Michel Henriot, maire de Moissac depuis 7 mois donc maintenant.
Jean-Michel Henriot, Moissac n'échappe pas actes d'incivilité, de délinquance et malheureusement, ce qui reflète pour certains une montée de la violence dans notre société ou dans nos sociétés. Arrêtons-nous sur ce sujet, si vous le permettez. La sécurité est-elle, selon vous, une affaire exclusivement de l'État?
Non, je crois que c'est une affaire de tous les citoyens. Parce que dans la sécurité, il y a des réalités malheureuses, les cambriolages, les vols à la roulotte, les trafics divers et multiples, qui relèvent pour le fond des enquêtes et le côté, justice et répressif des services de l'État. Après, il y a aussi une impression d'insécurité qui se dégage d'un certain nombre d'incivilités qui, il faut bien le dire, remontent régulièrement aux élus locaux qui vont de colibés ou de ou d'insultes quelquefois, malheureusement, proférées par des rassemblements de gens dans certains lieux qui sont un peu dérangés dans leur petit commerce, ça arrive. Ça peut aussi venir de plaintes parce que on trouve en dehors des lieux et des horaires destinés à ça, des sacs poubelles plus ou moins qui pénalisent donc la propreté de la ville. Mais là, il y a quand même, une participation effective des gens dans un civisme peut-être un peu plus marqué. Après, partant de là, le fait d'essayer d'aller vers les gens pour, notamment en matière de propreté de la ville, parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent.
C'est d'ailleurs un article dans votre dernier bulletin municipal, hein, il y a une photo à un moment voit des détritus qui ont été posés.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire, le but c'est de faire de la pédagogie à ce niveau-là, c'est-à-dire de dire aux gens, les services municipaux, certes, ils sont là pour entretenir la propreté de la voirie, mais si le personnel attitré est passé dans une rue et que 10 minutes après, derrière, quelqu'un passe, jette une canette, un papier gras et un sac poubelle...
On n'est pas dans l'insécurité, là. Non, mais... On est plus dans l'incivilité.
Alors, oui, mais je fais le lien entre les deux, parce que les deux sont mêlés dans les retours que nous avons, si vous
D'accord.
voulez. Hein? Bon, alors après, l'insécurité proprement dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les cambriolages, les vols à la roulotte, etc. Donc ça, il y a une participation globale, l'État, par la justice, la gendarmerie, en ce qui concerne moi ça, puisque nous sommes en zone gendarmerie, et la participation et la coopération de la police municipale, qui est quand même un élément important, puisque ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent beaucoup de monde, qui sont connus, sont quand même très présents, on pourra en reparler. Et depuis donc nous sommes arrivés, nous avons mis en place, et nous signons d'ailleurs le protocole la semaine prochaine avec le préfet, une participation citoyenne qui est... C'est pour ça que je reviens sur le civisme et la participation des administrés dans ce qui peut être la sécurité de la ville. Donc nous allons signer avec le colonel de la gendarmerie et le préfet jeudi prochain le protocole de participation citoyenne.
Est-ce que cela suffira-t-il à juguler cette insécurité que l'on dit croissante à Moissac?
Vous avez renforcé aussi les services de police municipale.
Je vais vous rassurer, je crois que en fait, de l'aveu même de la gendarmerie, puisque nous avons un renouvellement des cadres de la communauté de brigade, puisque c'est une communauté de brigade, hein, Castelsarrasin, Moissac et Saint-Nicolas-de-la-Grave, ils ont observé une baisse heureuse, parce qu'en 2013, ça avait été un peu catastrophique, des cambriolages. Il y a eu quelques actions un petit peu agressives vis-à-vis des dealers qui ont été menées par la gendarmerie, qui ont porté leurs fruits. Il y a un certain nombre
qui ont porté leurs fruits ou qui ont déplacé le problème
Alors, je vais vous dire, malheureusement, il y a un peu des deux. Quand je dis apporter leurs fruits, c'est parce qu'on a pris sur le fait avec tout ce qu'il faut pour mettre un individu qui était déjà connu, qui a bénéficié, entre guillemets, enfin c'est surtout la collectivité qui en avait bénéficié, d'une comparution immédiate qui lui a valu 6 mois de prison ferme, comme il avait déjà 6 mois de sursis.
Mais après, vous savez, souvent on dit qu'on a résolu un problème parce qu'il est invisible à cet endroit-là et il s'est déplacé un peu plus loin.
Mais on en est tout à fait conscient. Ouais. Hein. On sait très bien que on va pas, que personne ne résoudra ces problèmes-là en l'espace de quelques mois.
Les caméras de surveillance, c'est une solution?
Alors, les caméras de surveillance, justement, dans beaucoup d'endroits, la vidéoprotection, puisque c'est comme ça que ça s'appelle officiellement.
C'est votre cheval de bataille, la vidéoprotection?
Alors, c'est pas un cheval de bataille, je veux dire. Une politique de sécurité, c'est un tout, qui passe par de la prévention, donc ce qu'on disait sur le civisme, et les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qui sont des grosses machines, mais qui font énormément de travail, parce que elles s'attaquent à l'immédiat, mais aussi au fond du problème. Hein. sur tout ce qui peut être difficulté sociale qui engendre quelque part de la délinquance chez certaines personnes. Donc il y a ça, il y a les moyens que l'on donne à la police municipale, ça c'est le volet municipalité. Bon, les moyens de la police municipale, c'est des effectifs suffisants, c'est un équipement qui soit en accord avec ce qu'on leur demande, et éventuellement un programme de rénovation de la vidéoprotection, puisqu'elle existait déjà à Moissac, mais comme elle avait été mise en place progressivement, de façon, je dirais, par tranche, il y a peut-être une inégalité d'efficacité entre les matériels existants. Donc, il a été procédé à une étude par un cabinet spécialisé en accord avec la police municipale et la gendarmerie sur une amélioration de ce système, de nouvelles implantations, etc.
Vous avez intensifié la couverture de vidéoprotection à Moissac ? Vous allez intensifier ce réseau ?
Alors, on va certainement la rénover d'abord, pour que ce qui existe soit plus efficace. Et cette rénovation, dans la mesure de nos capacités budgétaires et des aides qui nous sont allouées pour ça, passera aussi par, je veux dire, une redéfinition, un ciblage de certains lieux qui ont été définis comme n'étant pas protégés, je dirais, qui ont besoin de l'être actuellement.
Voilà, et alors c'est là où je disais tout à l'heure, c'est qu'après on repousse peut-être aussi le problème aux endroits où après il n'y a pas de vidéoprotection. Je passe à autre chose, je passe à ce que par exemple vous pouvez proposer aujourd'hui à la jeunesse. Ça aussi c'était des choses de votre campagne.
Voilà, ça si vous voulez, c'est l'autre versant de ce dont on parlait tout à l'heure quand je vous parlais des comités locaux de prévention de sécurité et de prévention de la délinquance.
C'est l'SPD.
La prévention, ça passe par offrir d'autres possibilités aux jeunes en termes d'activité. Et ça passe par notamment, et ça, on vient de le confirmer au dernier conseil municipal, par une aide substantielle à toutes les associations qui peuvent occuper les jeunes, notamment...
58 441,13 €. Ça m'amuse toujours de savoir les virgules. Tu sais, les 13, ça, c'est la totalité des subventions que vous avez...
Qui ont été allouées aux écoles de sport. Ouais. Alors, pourquoi 13? Parce que, je vous rassure, je me suis posé les mêmes questions. C'est parce qu'il existe une convention qui avait été définie par l'Office municipal des sports il y a quelques années, notamment il y a une en 2012. Et dans cette convention, si vous voulez, qui donnait aux associations sportives qui avaient des écoles de sport, il y avait un mode de calcul
au prorata du
type d'activité, du nombre d'adhérents, ouais, etc. Et ça finissait par faire effectivement des décimales qui paraissent à première vue comme ça un peu curieuses, mais bon, apparemment, ça fait partie de la règle, donc on la respecte.
Vous avez, Jean-Michel Henriot, enfin, Moissac fait partie de la nouvelle géographie prioritaire, à l'instar de Montauban, hein, qui y était déjà. Est-ce que cette décision, que vous aspire-t-elle, et est-ce qu'il y aura matière à travailler dans la rénovation, si ce n'est urbaine, mais en tout cas la rénovation sociale, celle qui certainement amène de la délinquance?
Mais je pense que ça mène deux observations. La première, si nous avons des problèmes et qu'on vient nous aider à les résoudre, tant mieux. Et la deuxième, c'est si... on est éligible à ce genre d'aide, c'est que on a reconnu que nos moyens ne nous permettaient pas de le faire tout seul. Donc bon, ça c'est peut-être la moins bonne nouvelle, je dirais. Mais enfin, ça fait partie aussi des challenges auxquels il faudra se confronter. Mais ceci étant, bon, pour répondre à votre question, cette proposition, cette possibilité qui nous est donnée, bien entendu, c'est la porte ouverte à toute l'élaboration ou accélérer l'élaboration d'un plan de rénovation, d'un plan de propositions à faire qui puisse s'articuler avec justement ces projets de politique de la ville et qui nous permettent d'en tirer le meilleur profit possible. Quand je dis profit pour nos concitoyens, bien entendu.
Une dernière question sur ce sujet, hein, sur la politique de la ville, mais aussi sur qui touche à la sécurité. L'insécurité, à quoi cela est dû qu'à Moissac, peut-être plus que dans d'autres territoires ruraux, il y a une insécurité ou des phénomènes d'incivilité plus marqués qu'ailleurs? À quoi cela est dû, d'après vous?
Alors là je vais être un peu prudent parce que je suis pas si sûr, en définitive, que ce soit beaucoup plus marqué à Moissac qu'ailleurs. Parce que pour avoir eu des contacts avec déjà la gendarmerie, c'est une communauté de brigades. Donc les problèmes qu'on a à Moissac, ils les ont aussi à Castelsarrasin.
Admettons, mais pourquoi alors? Pourquoi dans les territoires ruraux il y a ce ferment de délinquance?
Si j'avais la réponse définitive, on aurait la solution au problème. Je crois que je ne l'ai pas. Je pense que il y a une certaine population de jeunes qui sont désœuvrés, alors que d'autres à côté se trouvent des activités, qui se laissent peut-être plus facilement convaincre par ceux qui sont là avant eux de les suivre dans ces voies, un petit peu marginales. Et puis comme ça leur procure un certain nombre de satisfactions immédiates,
ils se laissent aller. On s'ennuie donc un petit peu peut-être.
Mais il y en a qui s'ennuient pas. Justement, la difficulté, c'est quand même pas une majorité de gens qui s'ennuient.
Il nous reste à peine 2 minutes 30 et j'aurais aimé qu'on parle d'un autre point que vous avez abordé à votre dernier conseil municipal, c'est la mise en place du SDIS regroupé entre Castelsarrasin et Moissac. On n'a même pas eu le temps de parler d'intercommunalité. Je voulais juste savoir aussi si ça allait bien, l'intercommunalité maintenant Castel-Moissac, parce qu'on sait qu'avant c'était très très compliqué. Et savoir où vous allez implanter finalement ce nouveau centre de secours mutualisé entre Castel-Moissac.
Alors le centre de secours mutualisé, effectivement, c'est une demande qui date de certain nombre d'années, pour plus d'efficacité, pour regrouper des moyens, pour mutualiser des moyens. Il s'avère que, en définitive, ce projet est un projet qui concerne pas uniquement les communes de l'intercommunalité, puisque nous ne sommes que 6, mais aussi 17 communes en définitive, mais qui correspond quand même à une demande qui concerne surtout Castelsarrasin et Moissac, et qui aussi était un des projets qui s'intègre dans l'intercommunalité. Donc, vous savez qu'entre Castel et Moissac, il y a un certain nombre de terrains qui sont de l'intercommunalité, et notamment dans la zone de Fleury, qui est pratiquement le mi-chemin entre Castelsarrasin et Moissac, et qui est le lieu qui paraît le plus approprié pour implanter ce centre de secours.
3 245 000 euros, c'est son coût. 298 820,56, ça c'est la part de Moissac. Et puis après, c'est partagé. C'est 30% de cette somme qui doit être partagée entre 17 communes, dont Moissac.
Oui.
C'est ça. Et puis, il y a 70% qui est financé par le SDIS.
Par le Conseil Général.
L'intercommunalité qui va changer de nom.
Alors, l'intercommunalité va changer de nom, puisque c'était Castelsarrasin Moissac et que jusqu'à maintenant il n'y avait que 2 communes, maintenant il y en a 6, donc il faut lui trouver un nouveau nom.
La suite au prochain épisode. Merci Jean-Michel Henriot d'être venu
ici.
Écoutez, merci à vous de m'avoir invité, et puis comme vous le souhaitez, moi je suis prêt à venir répondre à vos questions si nous avons des choses intéressantes à débattre.
Rendez-vous est pris. Merci Jean-Michel Henriot. Prochain rendez-vous politique.
Dans 15 jours, donc José González, vice-président du Conseil général de Tarn-et-Garonne, qui sera notre invité.
Vous écoutez CFM et c'est tout juste l'heure des infos.
CFM.
Info. CFM.